peut-être que vous êtes dans un jardin zoologique et il y a la naissance d'un animal, par exemple, un ourson, quelque chose. Ou peut-être que vous êtes allé à Kourou ou peut-être à Fort Lauderdale, en Floride, pour voir le lancement d'une navette spatiale. Ou alors vous avez été témoin d'une éclipse, d'une tornade, d'un ouragan, ou peut-être même d'un tsunami, je ne sais pas. Alors, ce genre d'événement extraordinaire, lorsqu'on en est témoin, on en parle très longtemps, n'est-ce pas? Ça marque notre esprit. C'est le cas de l'événement qui va être relaté dans le texte qu'on va lire ce matin. C'est un texte dans l'Évangile selon Luc, et on va le lire, c'est à partir du chapitre 9, versets 28 à 36. Donc Luc, chapitre 9, 28 à 36. Un beau texte, et qui parle très fort également. Alors, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, donc on parle de Jésus, Jésus prit avec lui Pierre et Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, maître, ah, il est bon que nous soyons ici. » Dressons-toi trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint le couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, mon fils élu, écoutez-le. » Et quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Et le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint devant Jésus. Et voilà, du milieu de la foule, un homme qui pria, « Maître, je t'en prie, porte tes regards sur mon fils. » On va s'arrêter ici. Donc un beau texte ce matin. Le récit que notre texte de ce matin raconte a lieu vers la fin de la mission de Jésus. Est arrivé vers la fin, la dernière étape de la mission de Jésus. Imaginez-vous, il a passé 3 ans avec ses 12 disciples. 12 personnes qu'il a choisies. Il a consacré des heures et des heures à les enseigner, sans relâche. Alors eux, ils l'ont vu parler aux foules. Ils ont été témoins de conversions spectaculaires, de délivrance, de guérison, même d'exorcisme. Ils ont été touchés par son amour incomparable, sa compassion. Et ils commencent à comprendre que Jésus est un homme de Dieu exceptionnel. Jésus a fait naître dans leur cœur des espoirs pour eux-mêmes et pour tout le peuple. Mais savent-ils vraiment qui est Jésus ? Savent-ils qui il est ? Ont-ils compris les mystères de son identité ? Alors, pour comprendre la signification et les enjeux de ce récit de la transfiguration de Jésus, il faut rembobiner un petit peu, comme on pourrait dire. Il faut remonter le temps 8 jours auparavant. 8 jours avant la description de ce qui s'est passé sur la montagne, Luc rapporte une conversation que Jésus avait eue avec ses disciples alors qu'il les avait pris avec lui pour prier. Luc nous parle de cela. Et c'est au verset 18 du chapitre 9. Hein, conversation de Jésus avec ses disciples. Chapitre 9, verset 18. Qui dites-vous que je suis ? Dans ces moments d'intimité avec Dieu, Jésus avait eu à cœur de leur demander ce que la foule disait à son sujet. Hein ? Qu'est-ce que les gens pensent ? Que dit-on que je suis ? Alors pourquoi est-ce que Jésus pose cette question aux apôtres? Est-ce que Jésus est préoccupé à outrance à ce point-là de ce que les gens pensent de lui? Est-ce qu'il cherche à soigner son image de marque? Est-ce qu'il veut être populaire? Non, certainement pas. Mais cette question de son identité, c'est pas pour lui-même qu'il la pose. C'est pour ceux vers qui il a été envoyé. Qui dit-on que je suis? De toutes les questions, mes amis, de toutes les questions que les hommes peuvent se poser, celle-là, c'est la plus importante. C'est la plus importante. Toute la mission de Jésus tourne autour de cette question. Qui dites-vous que je suis? Les hommes ont besoin de savoir qui Jésus est. Pourquoi? Pour entrer dans le plan d'amour que Dieu a pour leur vie. Qui dit-on que je suis? Les apôtres ont entendu les conversations des Juifs autour d'eux, les Juifs de Jérusalem, de Galilée, de Judée. Et la population est divisée au sujet de Jésus. Jésus, vous savez, il suscite la controverse. Certains disent « Ah, oh, c'est Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. » D'autres disent que c'est le prophète Élie de retour sur terre. Et pour quelques-uns, Jésus, bien, il est l'un des anciens prophètes ressuscités. Et là, les rumeurs vont battre. Bon train. Qui dites-vous que je suis? Et Jésus se tourne alors vers les disciples et il leur demande à eux. Et vous? Qu'en pensez-vous? Que dites-vous que je suis, vous? Mais vous, il ne s'agit plus maintenant de reprendre les idées des autres. Ils ne peuvent plus se contenter de ce que les autres pensent, ou de répéter le discours officiel. Non. Qui dites-vous que je suis? Et cette question exige une réponse. Alors, comme c'est son habitude, ceux qui ont lu le Nouveau Testament, maintenant vous comprenez un peu le personnage, comme c'est son habitude, Pierre va s'empresser de répondre. Toujours lui en premier. Le Christ de Dieu. Bonne réponse. 20 sur 20. Nous, on aurait dit à Pierre, ça, ce que tu viens de dire là, va l'annoncer à tout le monde. Réponds le message. Mais Jésus, lui, il dit tout à fait le contraire. Drôle. Étonnant. Jésus dit le contraire. Jésus leur recommande sévèrement de ne dire à personne. Pourquoi? Parce qu'avant de répandre cette vérité, que Jésus est le Messie, les apôtres doivent comprendre ce que ça veut dire être le Messie. Il faut comprendre ce que ça veut dire être le Messie. Et les versets 22 à 27 donnent un contenu à ce titre de Messie. Ce titre-là qui avait été si galvaudé à l'époque des apôtres. Si on comprend les explications de Jésus, le Messie qui vient régner avec puissance et avec gloire, c'est pas seulement cet homme de Dieu exalté, triomphant, qui va soumettre tous les ennemis d'Israël, un grand héros militaire, à la manière de David, non. Le Messie, c'est aussi le Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup, qui doit être rejeté par les anciens d'Israël, par la classe religieuse. Le Messie doit être mis à mort et il doit ressusciter. Et Jésus continue en précisant que l'établissement du royaume de Dieu doit se faire dans la douleur et le renoncement, la mort à soi-même et l'esprit de sacrifice. En bref, la gloire finale et permanente du royaume de Dieu, même si le Messie est là, ce n'est pas pour tout de suite. Et c'est cette dimension-là qui échappait aux apôtres. C'est ça que les apôtres ne comprenaient pas encore. Mais revenons-en à notre texte de ce matin. Comme on l'a dit précédemment, Une semaine s'est écoulée depuis les explications de Jésus concernant son identité. Et là, de bon matin, Pierre, Jean et Jacques, avec lui pour prier, ils vont et ils gravissent cette haute montagne avec Jésus. Ils ont passé une bonne partie de la journée à prier avec lui. Imaginez le privilège. Ils prient avec Jésus, ils voient Jésus prier. Au début, ils sont émerveillés. La façon dont Jésus parle à Dieu, ça les impressionne. Il est si proche de Dieu. Ils le connaissent si bien. Mais au bout d'un certain temps, eux commencent à être fatigués. Et le jour baisse. Ils commencent à s'assoupir. Mais Jésus, lui, continue à prier. Il continue à prier. Et sa prière se fait de plus en plus intense, fervente. J'imagine qu'il n'avait jamais rencontré une personne qui priait comme ça. Et au moment où ils sont sur le point de succomber au sommeil, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Une grande lumière vient illuminer le lieu où ils se trouvent. Ah, c'est bizarre. La nuit vient de tomber, mais le sommet de la montagne est plus clair qu'en plein midi. Étrange ça. Et cette lumière qui émane du visage et des vêtements de Jésus, ce n'est pas une lumière naturelle. Aucun soleil ne brille comme ça. Et ils sont éblouis. Ils prennent conscience de la présence de Dieu, là, sur la montagne, en Jésus. Voyez-vous, eux qui sont juifs, cette scène leur rappelle l'histoire de Moïse au Sinaï. À un détail près. La gloire de Jésus, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Extraordinaire. La gloire de Jésus vient de l'intérieur. En plus, et là, il y a deux hommes qui apparaissent et qui parlent avec Jésus. Ce Jésus qu'ils connaissent bien, mais qui devient tout à coup tout autre. Et ils n'ont pas tout de suite conscience de l'identité de ces deux hommes. C'est au fil de leur conversation qu'ils découvrent que ceux avec qui Jésus est sont en fait Moïse et Élie. Moïse et Élie. Et de quoi est-ce qu'ils parlent? Alors, le contenu de leur conversation doit être hyper important pour qu'ils apparaissent comme ça avec Jésus. Est-ce qu'ils parlent de l'expérience de Moïse sur le mont Sinaï? Ou des plaies d'Égypte? Ou du don de la loi? Ou Élie est-il en train de raconter à Jésus et Moïse le défi qu'il a lancé au prophète de Baal, sur le mont Carmel? Est-ce qu'il rappelle à Jésus et Moïse cette prière pour que la pluie du ciel cesse de tomber? Non. Les trois ne parlent d'aucun de ces événements pourtant glorieux. De quoi est-ce qu'ils parlent? Ils parlent de Jésus. Il parle de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Ça ne semble pas bizarre, un peu comme phrase, drôle de phrase. Le départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi s'agit-il? Alors, dans la langue d'origine de la Bible, on peut s'imaginer que Jésus parlait peut-être l'araméen avec ses disciples. Alors, dans la langue d'origine, le mot qui est utilisé par Luc pour parler du départ, c'est le mot « exode ». L'exode. Il parle de l'exode de Jésus. Tiens, l'exode de Jésus. Oui, Jésus doit partir à Jérusalem. C'est la dernière étape de sa mission qui va le mener à la croix. Son exode à lui. C'est un sujet de la plus haute importance même pour Élie et Moïse. Plus glorieux que l'expérience du mont Sinaï, plus important que le moment où le feu va descendre du ciel pour consumer le sacrifice d'Élie en face des prophètes de Baal. L'exode de Jésus vers Jérusalem est au centre de leur conversation. Au centre. L'exode de Jésus, c'est ce parcours spirituel de Jésus vers le mont du Calvaire. Cet événement qui va permettre la libération du péché et de la mort. Voilà le sommet de toutes les expériences jamais vécues par un serviteur de Dieu. Voilà ce qui passionne le ciel au moment où Jésus est là au sommet de la montagne. Qu'est-ce qui passionne le ciel? C'est l'exode de Jésus. Extraordinaire. Comment les disciples réagissent-ils à cette scène extraordinaire? Luc mentionne que Pierre, Jean et Jacques, qui étaient assoupis et sur le point de s'endormir quelques instants auparavant, eh bien, à présent, ils luttent contre le sommeil. Ils ne veulent plus dormir, tout à coup. Ils ne veulent plus dormir. Ils voient la gloire de Jésus, ils voient les deux hommes qui étaient avec lui. Ils les reconnaissent, c'est Moïse. Ils sont aux premières loges. Et ils ne veulent manquer rien de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Au moment où Moïse et Élie sont sur le point de repartir, Pierre ouvre la bouche et les paroles qu'il va prononcer trahissent, une fois plus, l'émerveillement, mais aussi la peur. Pierre et la peur. Pierre et ses amis sont subjugués par la scène qu'ils ont sous les yeux. Subjugués. Et pourtant, ils se sentent bien. Ils se sentent bien. Combien ils souhaiteraient que ces moments ne finissent jamais. Pierre veut retenir Élie et Moïse. Il propose même de leur bâtir une tente. Un peu comme les Israélites, ils avaient fait après la sortie d'Égypte quand ils ont célébré la fête des cabanes, la fête des tabernacles. Jésus vient de dire qu'il doit aller à Jérusalem, mais Pierre veut le retenir. Et Luc précise que les paroles de Pierre, même s'ils partent d'une bonne intention, n'ont aucun sens. Aucun sens. Il ne sait plus ce qu'il dit tellement il est impressionné. C'est clair. Pour Pierre, bâtir une tente à Moïse, à Élie comme à Jésus, c'était une façon de les glorifier tous les trois de la même façon. Voyez-vous ça? Il voulait les glorifier tous les trois de la même façon. L'idée de Pierre paraît bonne, mais elle révèle son incompréhension par rapport à l'identité de Jésus. Pierre ne comprend pas encore très bien qui est Jésus. Dieu ne partage pas sa gloire avec les autres trois. Il ne partage sa gloire avec aucun homme. Il ne va pas permettre à Pierre de glorifier Moïse et Élie sur le même pied d'égalité que Jésus. Et là, il y a une voix qui vient du ciel qui va remettre les pendules à l'heure. Non, tu ne vas pas les glorifier tous les trois de la même manière. Non. Et dans cette voix qui est sortie de la nuée, Dieu enseigne plusieurs leçons qui sont fondamentales pour les trois disciples. Premièrement, Dieu identifie Jésus comme son fils. Celui-ci est mon fils. Il vient de Dieu. Il est comme Dieu. Il exprime Dieu. Lui seul est vraiment le Fils de Dieu, dans le plein sens du terme. Vous savez, lorsque le Nouveau Testament nous présente, nous les croyants, comme des fils et des filles de Dieu, c'est dans un sens très différent. Nous, on est des enfants d'adoption. Mais Jésus, lui, est naturellement le Fils de Dieu. Deuxièmement, deuxième vérité concernant Jésus, le texte dit qu'il est l'élu de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un titre ou un écho d'Ésaïe, chapitre 42. Où, dans le texte, dans le passage, le Messie qui doit venir est présenté comme un serviteur souffrant. L'élu de Dieu, c'est le serviteur souffrant, le Messie. Dieu, en désignant Jésus comme son élu, il l'identifie comme le Messie mais pas comme le Messie que Pierre attendait ou les autres apôtres. Ce Messie qui doit souffrir. À chaque fois que Jésus a essayé de leur expliquer cette vérité qu'il devait souffrir, les disciples ne l'ont pas reçu. Ils ne comprenaient pas. Et encore une fois sur la montagne, Jésus leur répète. Et Dieu même, par la voix du ciel, leur répète. Il doit souffrir. Finalement, le commandement, écoutez-le. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous rappelle simplement la prophétie dont Moïse parle dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Hein? Selon Deutéronome 18, 15, un prophète doit paraître à la fin des temps. Il va libérer le peuple de Dieu comme Moïse. Il va l'entraîner dans un nouvel exode. Il va inaugurer le royaume de Dieu. Et ce prophète comme Moïse, c'est Jésus. Et on doit l'écouter. Le texte dit, écoutez-le. Comme Moïse l'a annoncé, c'est à lui que tous les membres de Dieu doivent obéissance et soumission. Et Dieu, en parlant du milieu de la nuée, fait donc comprendre aux disciples que Jésus, dans sa personne, il accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il récapitule toutes les promesses de Dieu. Toutes les attentes du peuple sont en lui. Messie, prophète, chef du peuple, libérateur. Et après que la voix se soit tue, Jésus se retrouve seul. Moïse et Élie ont disparu. Et les apôtres sont bouche-bée, interloqués. Et ça peut partir. Alors, quelle utilité un texte comme celui-ci qu'on vient de lire peut-il avoir pour nous aujourd'hui? La question mérite d'être posée. Parce que, voyez-vous, il est peu probable que nous ayons, exactement comme Pierre, Jean ou Jacques, une révélation spectaculaire de la gloire de Jésus au sommet d'une montagne. Hein, je pense que c'est peu probable. Vous n'entendrez peut-être jamais la voix de Dieu vous parler pendant que vous priez. Vous ne verrez sans doute pas Moïse et Élie vous apparaître pendant votre sommeil. Pourtant, le texte de Luc a plusieurs choses importantes à nous apprendre aujourd'hui. Comme les apôtres, comme les contemporains de Jésus, nous aussi, nous avons besoin, plus que toute autre chose, de savoir qui est Jésus. Comme eux, on doit en arriver à une conviction personnelle, mes amis. On ne peut pas se contenter des rumeurs, d'idées vagues ou d'idées en vogue. De qu'en dira-t-on? On doit savoir parce qu'il en va de notre éternité. Vous savez, je vous apprends bien, il y a plusieurs idées qui circulent de nos jours au sujet de Jésus. Et même en tant que chrétien, ces idées peuvent nous influencer. Mais comme Pierre, Jean et Jacques, il nous faut être prêts à confronter notre conception de Jésus avec ce que la Bible dit. Notre conception de Jésus qui peut être incomplète ou tordue. Alors, le récit de la transfiguration, replacé dans son contexte, nous invite à reconnaître en Jésus à la fois le serviteur souffrant, le roi de gloire, à la fois le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, tout-puissant et compatissant, proche et élevé. Et nous qui sommes promptes à vouloir partager avec Jésus la gloire de son règne, le passage de Luc ici nous dit qu'il n'y a pas de gloire sans la croix. Est-ce que nous, ce matin, on accepte la réalité de la croix dans notre vie de tous les jours? Et il y a une autre vérité que ce texte veut imprimer au plus profond de notre cœur, je crois. Jésus n'a et ne doit jamais avoir de rival dans notre vie. Il est prééminent. Aucun autre ne peut être mis à son niveau. Que ce soit Moïse, Élie, le plus grand des saints, le plus grand homme de Dieu, aucun autre ne doit être mis à son niveau. Jésus doit devenir le roi suprême. Rien ne doit partager l'honneur qui lui est dû. Il doit être l'unique chef, le Seigneur, celui qui détient toute autorité pour nous. Et j'ose poser la question, l'est-il dans ma vie ce matin? L'est-il? Finalement, comme pour Pierre, Jean et Jacques, qui ne virent plus que Jésus à la fin du récit, ne voient rien d'autre que lui. Prions, nous, à SB, ici ce matin, prions enfin que Jésus remplisse notre vision. C'est beau ça. Sois ma vision, Seigneur. Remplis ma vision. Que sa vue nous captive tout entier. Que toutes les autres gloires du ciel et de la terre pâlissent à nos yeux. Celui-ci est mon Fils élu. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est ma prière ce matin, que l'on puisse rester avec ces paroles, qu'elles puissent alimenter notre réflexion cette semaine. Où est-ce que j'en suis avec Jésus? Quelle place a-t-il dans ma vie? Qui est-ce que moi je dis qu'il est? Qui est-il pour moi? Prions.